Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Marguerite Caton, Maïder Gérard, Léa Capoineau et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et à la technique. Ce matin, Emmanuel Morse-Duncan. Troisième volet de notre série consacrée à l'Espagne qui vote ce dimanche pour renouveler son Parlement. Fractures espagnoles, c'est la thématique de notre semaine, comme toujours en quatre épisodes. Lundi, nous avons parlé du nouveau paysage politique et des enjeux de ces élections. Hier, mardi, nous faisions un bilan des politiques d'austérité. Et enfin, demain, nous aborderons l'épineuse question de l'unité espagnole entre tensions indépendantistes et fantômes du franquisme. Mais ce matin, focus sur les droits des femmes et le renouveau des mouvements féministes, les droits des femmes au cœur de la campagne, c'est notre sujet jusqu'à midi.
Il y a un avant et un après suite aux manifestations féministes et le nouveau gouvernement reflète tout à fait ce mouvement. Ce gouvernement place les politiques d'égalité en haut des priorités de son action, sous la responsabilité de la vice-première ministre.
On est passé d'une époque où la femme ne comptait pas à l'excès inverse. Aujourd'hui, les femmes sont tellement protégées que ce sont les hommes qui sont vulnérables. Vox veut rétablir un équilibre.
Le féminisme m'a aidé à comprendre que certaines des choses qui nous arrivent à nous les femmes, en politique par exemple, mais aussi dans tous les autres milieux, dans toutes les autres professions, nous arrivent parce que nous sommes des femmes et non parce que nous avons un problème ou que nous avons fait quelque chose de mal. Par ailleurs, j'ai réalisé que les femmes doivent avoir leur propre voix dans la plupart des métiers, et particulièrement en politique, qui, pour moi, n'est pas un métier mais un engagement.
Les droits des femmes et le féminisme, des questions hautement politiques ces dernières années en Espagne. On entendait à l'instant le socialiste Pedro Sanchez, actuel chef du gouvernement, puis un militant du parti Vox, et enfin Irene Montero, la numéro 2 du parti de gauche Podemos. Et c'est donc le parti Vox, cette nouvelle formation d'extrême droite, qui a ouvert les hostilités il y a quelques semaines en déclarant son intention de revenir sur plusieurs acquis, à commencer par la loi contre les violences sexistes adoptée en 2004. Il faut rappeler que l'Espagne, où de nombreuses femmes sont victimes de violences conjugales, a été pionnière en la matière. Depuis 2004, donc, la justice s'est dotée de tribunaux spécifiques et peut déclencher des mesures de protection rapides et efficaces. Un acquis précieux sur lequel les mouvements féministes n'entendent pas reculer, ni un paso atrás, pas un pas en arrière, clament les militantes. Il faut dire que les mouvements féministes sont particulièrement actifs et vigilants ces dernières années en Espagne, alors que les femmes ont été les premières touchées par la crise économique. Alors les Espagnols permettront-elles que l'on revienne sur les droits acquis en matière d'égalité et de lutte contre les violences de genre? Comment les autres partis politiques se positionnent-ils sur ces questions désormais au cœur de la campagne? Enfin, les féministes espagnoles sont-elles à l'avant-garde du renouveau mondial du mouvement? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous sommes en compagnie ce matin de Karine Bergès. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes en duplex depuis les studios de France Bleu Occitanie à Toulouse et nous les remercions au passage de vous accueillir pour ce duplex. Vous êtes maîtresse de conférence en civilisation espagnole contemporaine, à l'université de Cergy-Pontoise. Vous avez dirigé avec Florence Binard et Alexandrine Guyard-Nédélec l'ouvrage Féminisme du 21e siècle, une troisième vague, point d'interrogation. C'était aux presses universitaires de Rennes en 2017, à l'intérieur duquel on trouve notamment un chapitre signé par vous sur le féminisme en Espagne. Alors, pour revenir au cœur de cette campagne électorale qui va s'achever dimanche avec ce vote des législatives, comment est-ce qu'on peut comprendre la stratégie du parti Vox, le parti d'extrême droite, qui décide de faire de la remise en cause des violences, de la loi sur les violences conjugales, un de ses thèmes principaux de campagne, alors même que ce sujet jusqu'à présent faisait quand même consensus dans la classe politique et dans l'opinion publique? Que cherche-t-il?
Alors, Vox est un parti, effectivement, vous l'avez rappelé, qui a émergé depuis 2014, hein, qui est dirigé par Santiago Abascal, et qui a fait, effectivement, de ses thèmes de campagne, qui a fait des droits des femmes, et contre les droits des femmes, un de ses thèmes de campagne. Et donc, ce parti, en perspective des élections donc de dimanche, a développé toute une rhétorique anti-femmes et avance un certain nombre de propositions qui remettent en cause des droits votés, notamment depuis la période socialiste, c'est-à-dire depuis 2004 avec José Luis Rodríguez Zapatero. Et l'une de ses propositions les plus saillantes, c'est cette fameuse abrogation de la loi intégrale contre la violence de genre, qui a été donc votée en 2004 et qui a permis de mettre en place, effectivement, vous l'avez rappelé en introduction, des tribunaux spéciaux pour la prise en charge des violences faites aux femmes, la formation de juges ou de magistrats, ainsi que des policiers, et évidemment le financement pour mettre à l'abri ou éloigner les femmes victimes de ces violences, avec également une aide à la réinsertion. Et donc la proposition de Vox et le remplacement, ou le démantèlement plutôt, démantèlement de cette loi de 2004 et son remplacement par une loi qu'il appelle une loi intrafamiliale qui met en fait sur le même plan, sur le même pied d'égalité, la violence contre les femmes, les hommes, les enfants ou les personnes âgées.
C'est-à-dire que donc, Vox, pardon, d'une certaine manière, entend nier le fait qu'il y ait des violences spécifiques aux femmes parce qu'elles sont femmes. C'est ça l'idée derrière.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en Espagne, on emploie le terme de « violencia de género », violence de genre. Et Vox, mais pas que Vox, hein, d'autres partis également, mais ont tendance à, en ce moment, remplacer cette rhétorique-là de la violence de genre par la violence domestique. Donc, c'est pas la même chose. La violence domestique dilue, finalement, la spécificité d'une violence qui s'exercerait contre les femmes, c'est-à-dire une violence systémique qui naît d'un système patriarcal où les hommes ont la domination sur les femmes. Et la violence domestique, employer cette expression revient finalement à diluer la violence de genre au sein d'autres formes de violence qui sont effectivement tout à fait réelles, mais qui gomment par là même cette spécificité de la domination contre les femmes et d'une violence systémique. Donc en fait, Vox compare cette loi de 2004 à une, je cite, hein, une criminalisation institutionnelle des hommes, et donc son objectif est son démantèlement et voilà cette dilution des violences spécifiques contre les femmes dans des prises en compte beaucoup plus larges de ces violences.
Vox depuis son émergence. Alors rappelons que le parti a été créé il y a quelques années déjà, mais on a commencé à en parler énormément en décembre dernier lorsque le parti a décroché 12 sièges au Parlement régional d'Andalousie. L'un de ses vice-présidents, Iván Espinosa de los Monteros, avait déclaré au Figaro il y a quelque temps « Les valeurs traditionnelles ne sont plus défendues en Espagne » et donc Vox se présente comme le meilleur garant de ces valeurs traditionnelles et conservatrices. Est-ce que ça veut dire qu'il s'appuie derrière sur une frange de l'opinion publique qui estime peut-être qu'il y a trop de droits qui ont été accordés aux femmes ces dernières années ?
Oui, effectivement, c'est exactement cet objectif qui est poursuivi. Vox a, je crois qu'un de vos invités lundi a déclaré que Vox a décomplexé l'affichage de certaines catégories de personnes, me semble-t-il. Et effectivement, c'est ce qui se passe pour les droits des femmes. Si l'on prend cette catégorie-là, on peut dire qu'un certain nombre de personnes qui se revendiquent de Vox se sont senties dépossédées ces dernières années par les droits accordés aux femmes ou aux minorités sexuelles. On a effectivement un écart assez fort aussi entre cette Espagne urbaine ou une Espagne plus rurale ou traditionnelle. Et c'est un parti qui a cristallisé finalement alors un certain nombre de catégories de personnes, mais là, en ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir un discours décomplexé sur le sexisme, sur les excès du féminisme. C'est la campagne de Vox est basée effectivement sur cette rhétorique d'un féminisme radical, un féminisme qui serait excessif, un féminisme comparé d'ailleurs au nationalisme, au sens où il viendrait fracturer et perturber une pseudo-unité ou une harmonie entre les hommes et les femmes.
Et les mots sont très durs, hein. Les mots employés par les militants de Vox, on a pu lire des phrases comme « nous subissons un féminisme suprémaciste » et même un « nazi-féminisme ».
Oui, c'est le terme qui est employé. Alors, Vox n'a pas inventé ce terme de ce qu'on appelle en Espagne « feminazi », hein, la contraction de féminisme et de nazisme. C'est un terme qui a déjà été, c'est un terme qui a déjà été utilisé par les mouvements masculinistes qui étaient en sommeil aussi en Espagne. Les mouvements masculinistes se sont investis dans Vox, mais étaient de toute façon en sommeil et ont toujours été présents. Enfin, il y a toujours eu un anti-féminisme revendiqué. Et là, Vox a cristallisé, effectivement, au sein d'un parti politique ou d'une formation politique, ses mécontents du féminisme. Et le terme de féminazi est extrêmement violent, puisqu'il renvoie, vous l'avez dit, à un suprémacisme blanc et à un féminisme qui serait, je l'ai dit tout à l'heure, radical ou excessif et qu'il faut donc combattre et éradiquer. D'ailleurs, l'une des propositions, on a parlé donc de cette loi d'intégrale de 2004, mais dans le parti de Vox, on retrouve également la demande de la fin des subventions pour les associations féministes radicales. Donc radical, c'est pas moi qui le dis, mais effectivement, c'est inscrit dans le programme de Vox. Alors radical, ça renvoie à quoi, hein ? Radical, c'est un terme qui est très très large et qui peut renvoyer à une multitude de mouvements. Mais pour Vox, dans la pensée de Vox, radical renvoie à un féminisme effectivement excessif et qui n'aurait comme objectif que celui d'éradiquer le mal, les hommes. Or bon, c'est quand même que ce discours est extrêmement archaïque. C'est celui qui est utilisé par les mouvements masculinistes ou par des partis se revendiquant de l'extrême droite, voire de la droite dure. Et effectivement, on voit très clairement sur quelle ligne idéologique se positionne ce parti qui a fait de ce combat contre le féminisme l'une de ses priorités et qui finalement arrive à obtenir un certain nombre d'électeurs mécontents par la politique menée depuis notamment 2004 jusqu'à aujourd'hui avec quelques hauts et quelques bas, mais des partis qui se sont succédés au pouvoir en Espagne.
Justement, Karine Bergès, nous sommes à quelques jours du scrutin qui aura lieu dimanche. Est-ce qu'on peut dire que Vox, qui est quand même une formation assez récente, assez petite, hein, c'est 10% des intentions de vote dans les sondages, ils ne sont présents que dans 38 provinces sur 52, eh bien, a réussi tout de même à imposer aux autres partis ces thèmes de campagne, en l'occurrence cette question de la remise en cause des acquis des droits des femmes. Et comment, du coup, se positionnent les autres partis, notamment les autres partis de droite, parce qu'il y a la question des alliances, hein, derrière qui va arriver, oui. Ciudadanos et le PP, le Partido Popular, ont un enjeu très fort en fonction du score que va obtenir Vox et bien de possibles alliances avec eux pour gouverner.
Alors, j'ai un avis un peu plus partagé, c'est-à-dire que je pense que Vox, effectivement, a récupéré ces thématiques sur les droits des femmes par, nous l'avons dit, un discours qu'on va qualifier de misogyne contre l'émancipation des femmes, hein. C'est-à-dire que Vox clame un retour à un ordre patriarcal contre l'émancipation des femmes. Il développe un discours, finalement, qui présente le féminisme, pour résumer, comme un agent et un symptôme du déclin de la société. Voilà. Mais je dirais que Vox n'a pas forcément imposé cette question des droits des femmes. Cette question des droits des femmes, elle est déjà au cœur des politiques des dernières années, et elle a été aussi imposée, il faut le rappeler, sous la pression, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais des mouvements féminismes espagnols qui depuis 2011 ont connu une espèce d'ébullition, de renouveau. On parle de tsunami social, et donc cette imposition du thème dans la campagne électorale, elle émane également d'un changement social dans la société espagnole et d'un changement social qui est dû à de très fortes mobilisations, pas que féministes, hein, citoyennes, il est important de rappeler, et qui ont imposé également ces thèmes de campagne aux partis politiques. Alors là, évidemment, Vox reprend de façon décomplexée ces thématiques, hein, en les caricaturant très souvent, mais les autres partis ont effectivement développé dans leurs programmes électoraux tout un argumentaire autour des droits des femmes. femmes. Donc je dirais qu'il y a en fait effectivement Vox a caricaturé et donc a permis à imposer finalement d'une certaine façon effectivement la nécessité de répondre à ce discours misogyne, mais en même temps je crois que le terrain social, les mouvements sociaux, les mouvements de femmes et la société civile en général qui s'est unie à ces mouvements de femmes ont également imposé ces thèmes de campagne et on le voit d'ailleurs hein, au cours des dernières années, en tout cas depuis 2011.
Ma question portait précisément sur le parti Partido Popular, le grand parti conservateur de droite, la question étant de savoir est-ce que ces provocations ou ces prises de position très radicales de Vox ne va pas obliger le Partido Popular à durcir ses positions, en tout cas se positionner peut-être plus fermement sur des questions peut-être qu'il évitait ces dernières années.
Oui. Alors, le Parti populaire a été au pouvoir, hein, en tout cas à plusieurs reprises, notamment depuis 2011, avec sous la gouvernance de Mariano Rajoy. On assiste effectivement, alors de façon générale, à une droitisation du discours du Parti populaire, en tout cas depuis la motion de censure de juin 2018, et qui a porté donc à la tête du Parti populaire Pablo Casado. Donc cette droitisation, elle s'accompagne d'une... Il se présente comme hein, une forme de régénération contre la corruption, etc. Donc en ce qui concerne les thèmes des droits des femmes, ces thèmes-là ont également été développés au sein du Parti populaire sous la présidence de Rajoy et notamment à travers, il faut le rappeler, une proposition de loi de réforme de l'avortement en 2012 qui était portée par le ministre de la Justice de l'époque, Ruiz Gallardón, et qui a mis dans la rue pendant plus de 2 ans les associations féministes, mais également la société civile. Donc ce thème de campagne, il a cristallisé, ce thème de l'avortement a généré de très fortes tensions au sein du Parti populaire de l'époque, puisque le Parti populaire étant composé de familles politiques différentes, il a créé une fracture au sein du Parti populaire, consensus autour de la question de l'avortement entre son aile la plus radicale et l'aile la plus modérée et qui a mené en 2014 à la démission obligée du ministre de la Justice, donc Ruiz Gallardón, porteur de ce projet de réforme. Donc le Parti populaire est un peu plus prudent pour cette campagne. Et notamment, il est assez remarquable de voir que dans son programme électoral, le thème de l'avortement n'est pas officiellement traité. Il n'y a pas une position officielle du parti par rapport à l'avortement, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de lire entre les lignes. Et dans le programme électoral, on retrouve 2 points, le point 223 et 224, où on ne parle pas directement de l'avortement, ce terme n'apparaît pas, mais on parle d'encourager et de préserver une culture de la vie. Et c'est exactement le discours qu'utilise également Vox, qui parle de protéger les valeurs familiales et la culture de la vie. Effectivement, on a à la fois une prudence du Parti populaire sur ces questions, mais Pablo Casado, on va le dire assez clairement, c'est... manifesté publiquement à plusieurs reprises hors de la campagne contre l'avortement et on a notamment au sein du Parti populaire, il y a eu la convention nationale du Parti populaire en janvier 2019 où on a eu une place centrale a été accordée à ce qu'ils appellent les valeurs humanistes chrétiennes et qui condamnent clairement et ouvertement l'avortement.
Voilà. Karine Bergès, vous l'avez rappelé, les mouvements féministes n'ont pas attendu les provocations ou les prises de position du Parti Vox ou du Parti populaire pour prendre de l'ampleur et se mobiliser. Le 8 mars 2018, des manifestations massives pour la journée des droits des femmes ont eu lieu et un mode opératoire inédit, une grève générale.
Je crois que c'est important de continuer à défendre l'égalité des femmes parce que malheureusement, il y a encore beaucoup d'inégalités aujourd'hui. Et c'est précisément nous, en tant que jeunes femmes, qui serons les futures travailleuses, qui allons avoir une vie devant nous, qui devons nous efforcer d'atteindre l'égalité salariale et de ne pas permettre à nos partenaires de nous maltraiter. À nous de transmettre ce message aux jeunes femmes.
Je dis oui à la grève à cause des différences de salaire, des violences et des différences de traitement.
Une grève suivie par 6 millions de personnes en 2018. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, l'ampleur de cette mobilisation a pris de court l'ensemble de la classe politique et même des médias, Karine Bergès ?
Oui, l'ensemble de la classe politique, effectivement, a été prise de court par l'ampleur de cette grève, qui, par son mode opératoire, est inédite, du moins en Espagne. Il y a eu quelques exemples dans d'autres pays, notamment en Islande. Mais en Espagne, en tout cas, cette grève féministe est inédite. Et elle a été, effectivement, elle a pris de court les partis politiques, notamment, par l'ampleur de la manifestation. Vous l'avez rappelé, plus de 6 millions de personnes se sont déclarées grévistes à temps partiel ou toute la journée. Et surtout, ce qui est assez impressionnant lorsqu'on regarde ces grèves, cette grève en tout cas du 8 mars 2018, c'est l'ampleur des grèves effectivement dans le monde de l'entreprise, mais également dans l'espace public. Donc on a un investissement massif de la société civile et des mouvements féministes dans l'espace public qui propose donc de faire pression pour que les droits des femmes ne soient pas oubliés. Alors cette grève, l'extrait que vous avez présenté, je crois, est la grève du 8 mars 2018. Mais il faut rappeler que vu le succès de cette grève, de cette mobilisation, la grève a été reconduite pour le 8 mars 2019.
Avec le même succès ?
Avec le même succès et avec d'autant plus de succès, je dirais, que cette grève du 8 mars 2019 s'est déroulée dans un contexte particulier qui est la montée du parti Vox. Donc, trois mois auparavant, en décembre, Vox, vous l'avez rappelé aussi en introduction, a fait son entrée au Parlement andalou avec plus de 12 sièges conquis. Et à ce moment-là, le discours sur les droits des femmes, effectivement, a eu une ampleur et une représentation politique à travers cette élection.
Ça c'est pour pour 2019, mais du coup comment expliquer l'année d'avant, 2018, expliquer ce dynamisme? Vous parlez vous-même d'un bouillonnement. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne pour que d'un coup les mouvements féministes reprennent une ampleur de cette nature?
Alors il y a plusieurs éléments. Certains sont d'ordre plus économique, qui est, vous l'avez rappelé hier dans votre émission, la crise qui frappe l'Espagne depuis 2008. Et cette crise, elle a un impact direct sur la situation des femmes, notamment la situation économique. Je n'ai pas le temps de rappeler trop de choses ici, mais quand même rappeler qu'il y a des coupes budgétaires très importantes à ce moment-là du gouvernement de Mariano Rajoy, et notamment une loi, la Ley de Dependencia, la loi de dépendance en 2012, qui vient apporter à nouveau, enfin faire des coupes budgétaires, et notamment dans les prestations familiales accordées aux familles. Et évidemment, lorsqu'on parle de famille et qu'on parle de travail intrafamilial, si vous reprendre cette expression, on va parler d'un travail qui est invisible, qui est le travail du care, le travail des soins, le travail domestique. Ce qui veut dire que ces coupes budgétaires ont eu une répercussion directe sur la précarisation du travail des femmes, ce qu'on appelle aussi la féminisation de la pauvreté, et plus directement ou plus concrètement, par un alourdissement de la journée de travail des femmes et du soin et de la dépendance qu'elles accordent aux personnes âgées ou aux enfants. Et donc cette dégradation finalement des conditions de vie a été, ce n'est pas été la seule, mais a été l'un des moteurs aussi pour associer cette dimension anticapitaliste, anti-néolibérale au mouvement féministe. Et donc ça, c'est un des paramètres qui donc est en lien direct avec une dégradation économique finalement de la situation des femmes et des familles.
Et qui explique donc directement la mobilisation de ces femmes et de tous horizons. C'est ce que vous expliquez dans les analyses que vous faites du féminisme espagnol. Ce qui est intéressant, ce sont des femmes qui viennent de toute classe sociale.
Alors, ce qui est intéressant, pour revenir à la grève du 8 mars 2018, pour se centrer là-dessus, parce qu'elle est en lien directement avec tous ces événements, c'est effectivement une grève qui a un caractère intersectionnel, comme on peut le remarquer. C'est à la fois une grève du travail dans la sphère professionnelle, avec un arrêt partiel ou total de l'activité pour la journée du 8 mars, une grève de la consommation, et notamment dans les grandes enseignes considérées comme le bras droit du néolibéralisme, la grève des soins, ce qu'on appelle donc les cuidados, le care, c'est-à-dire tâches ménagères et soins aux personnes, grève de l'éducation avec la mobilisation des étudiantes et des enseignantes, et une grève de la culture avec la mobilisation notamment des journalistes, de la presse écrite, radio et télévision. Et ce caractère intersectionnel, il se répercute à travers, on va dire, trois spécificités. Le caractère intergénérationnel, on trouve des jeunes femmes entre 15, des jeunes adolescentes qui participent aux manifestations avec leur grand-mère, ou voire pour certaines leur arrière-grand-mère, jusqu'à des femmes qui ont 80 ans et qui ont été avait également dans les années 80, fin des années 70-80, des militantes féministes. Le deuxième paramètre, c'est une mixité sociale, avec une représentation de toutes les catégories sociales, vous l'avez dit. Et troisième élément important, une mixité ethnique avec la participation des femmes issues de l'immigration, notamment latino-américaine, aux côtés des féministes espagnoles. Et ce qui est assez nouveau, car elles avaient été largement absentes, notamment des marées citoyennes du 15 mai 2011, hein, cette révolution des indignés. Et donc, on avait effectivement une grève qui est unitaire. Là, c'est intéressant aussi, parce que le féminisme espagnol n'est pas homogène. On a une grande hétérogénéité des mouvements féministes. Mais ce qui est très intéressant en Espagne, et qui explique aussi ce succès, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une unité dans l'action. C'est-à-dire, malgré les divergences idéologiques de certains groupes féministes, on retrouve cette nécessité de s'unir pour des moments ponctuels, des grands combats. La loi de l'avortement de 2011 en a été un exemple, et la grève du 8 mars 2018 ou 2019, un autre exemple, qui démontre cette vitalité, effectivement, du féminisme espagnol, et cette capacité à imposer, on l'a dit en début d'émission, ces thématiques dans le débat électoral.
Karine Bergès, tous ces éléments que vous venez de nous décrire, la mixité, l'intersectionnalité, l'unité du mouvement féminisme espagnol, en quoi est-ce qu'ils participent de la construction, alors de ce qu'on appelle aujourd'hui une troisième vague du féminisme, étant entendu que la première vague correspond au fin du 19e siècle, hein, l'accès au droit de vote, je résume à grands traits, la seconde vague, les années 70, les revendications d'émancipation face au patriarcat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on parle d'une troisième vague. En quoi est-ce que ce qui se déroule actuellement en Espagne participe de cette dynamique ?
Alors, ce qui est parti de cette dynamique, c'est que, bon, effectivement, il n'y a pas un consensus autour de la catégorisation, de la chronologie de la troisième vague. On ne va pas forcément y revenir ici, mais on va dire que c'est à peu près au milieu des années 90 qu'on va voir se développer cette troisième vague du féminisme. Cette troisième vague du féminisme, j'insiste aussi, elle n'est pas forcément en rupture avec les vagues précédentes, et notamment avec la deuxième vague, qui est la vague des années 70, où on a déjà politisé des questions qui étaient de l'ordre de l'intime, notamment la sexualité et les violences faites aux femmes. Donc il n'y a pas forcément une rupture, il y a une continuité. Il y a une continuité aussi en lien avec le contexte politique, économique, dans lequel se déploient ces mouvements féministes. Alors pour l'Espagne et la troisième vague, effectivement, on a un féminisme qui est ancré dans les thématiques sociétales, et un féminisme qui, je l'ai expliqué avec la crise de 2008, a repris à son compte un certain nombre de thématiques économiques, par exemple l'économie féministe, c'est-à-dire l'étude critique de la science économique, afin de surmonter ses biais androcentrés, et notamment où on travaille, où on réfléchit sur l'économie du care et les activités non marchandes. Quand on parle d'activités non marchandes, on parle par exemple du travail non rémunéré par les femmes dans la sphère familiale et qui représente quand même un tiers du PIB des pays de l'OCDE. Donc c'est assez important de le rappeler. C'est un féminisme, c'est un mouvement politique qui est ancré dans la société et qui notamment se déclare anticapitaliste, puisque les atteintes aux droits des femmes ont été perpétrés notamment par des grands groupes ou par une précarisation des femmes, notamment évidemment les plus vulnérables. Donc c'est un féminisme qui est vraiment en lien avec ce qui se passe actuellement et qui propose là aussi des solutions, des réflexions et une nouvelle théorie. Parce qu'on parle beaucoup de mobilisation féministe, c'est-à-dire dans l'espace public, ce qui est le plus visible, mais la théorie produite ces dernières années aussi contribue à cette expansion, à cette théorisation d'une troisième vague, et notamment avec le caractère intersectionnel. C'est-à-dire, pour faire très vite, c'est-à-dire l'analyse de rapports multifactoriels, la superposition non plus seulement du genre comme un facteur de discrimination, mais également on superpose le genre, la classe sociale, la race ou l'orientation sexuelle. Donc en fait, ce féminisme intègre des catégories de femmes différentes, des femmes par exemple issus d'immigration, comme on le voit en Espagne avec les femmes latino-américaines, mais également reprend à son compte des thématiques en lien également avec ces mouvements de la deuxième vague. Et en Espagne, on a un exemple clair qui est celui de la défense de l'avortement, menacé donc en 2012 sous le Parti populaire et qui démontre bel et bien que les droits des femmes ne sont jamais acquis. Donc les féministes de la troisième vague espagnole, ce qui est intéressant, c'est la dimension intergénérationnelle, je l'ai rappelé, elles se battent aux côtés des féministes qui, dans les années 80, ont demandé, par exemple, une loi sur l'avortement. La première loi sur l'avortement, c'est 1985 en Espagne, sous le gouvernement du socialiste Felipe González, avec évidemment des restrictions fortes. Mais il faut voir cette dynamique comme une continuité depuis les années, en Espagne en tout cas, fin des années 70, jusqu'à aujourd'hui. Et les jeunes féministes sont souvent assez fières de revendiquer cet héritage de leurs aînés. Et on voit que ça crée un mouvement d'une grande intensité et aussi avec beaucoup de, comme on dit dans le féminisme, de sororité, c'est-à-dire cette fraternité entre femmes, entre générations et entre classes sociales.
Et peut-être que l'Espagne, Karine Bergès, fait figure de laboratoire sur toutes ces questions. L'avenir nous le dira. En tout cas, les droits des femmes au cœur de la campagne, c'est notre sujet ce matin. Vous êtes avec nous, Karine Bergès. Tout de suite, focus sur un autre sujet.
France Culture. Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Un autre sujet, en fait, la question des droits des personnes LGBT, qui est aussi un sujet qui travaille la société espagnole ces dernières années. Là encore, l'Espagne a été pionnière, notamment sur la question du mariage pour tous.
Nous avons commencé notre relation en 1975. Franco était toujours vivant. À cette époque et pendant de nombreuses années, personne n'imaginait qu'un tel mariage pourrait avoir lieu. Et encore moins ici en Espagne.
Finalement, il n'y a eu absolument aucun problème. Au contraire, beaucoup de voisins de la mairie sont venus se joindre au mariage pour venir nous féliciter. C'était quelque chose de réellement émouvant.
Bonjour Geoffroy Huard.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Alors, 2005, en Espagne, la gauche adopte une loi légalisant le mariage pour tous. On sait à quel point il a fait débat en France en 2013. Comment ça s'est passé en Espagne, près de 10 ans plus tôt? Est-ce que c'est un sujet qui a aussi divisé l'opinion publique à l'époque?
Alors, bon, c'était un sujet effectivement très très important. Il y a eu de débats très très forts en Espagne, pratiquement comme en France, mais il n'y a pas eu de manifestation comme la Manif pour tous en France, si vous voulez. Hein. Ça n'avait pas été aussi dramatique. Je dirais que cette loi, effectivement, elle a été approuvée par l'immense majorité de la population, puisqu'à l'époque, il y avait déjà quand même 66% de la population qui était pour. Et aujourd'hui, vous voyez, 10 ans plus tard, il y a encore quand même 84% de la population donc qui est favorable au mariage pour tous.
15 ans plus tard, qu'est-ce qu'on sait des chiffres de l'accès au mariage pour tous? Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de banalisation de ce droit et de cette pratique dans la société espagnole?
Alors oui, tout à fait. Alors concernant les chiffres aujourd'hui, bon, c'est des chiffres de 2016, mais entre 2005 et 2016, il y a eu environ 40 000 mariages entre personnes de même sexe. Donc aujourd'hui, voilà, en 2019, on peut dire que c'est pratiquement 50 000 mariages. Ça représente que 2% de tous les mariages, donc qu'ils soient hétérosexuels ou non. Donc vraiment, voilà, on peut effectivement, comme vous le dites, parler d'une banalisation, puisqu'il y a un soutien tout à fait majoritaire dans la population espagnole. Comme je le disais tout à l'heure, donc ça tourne autour de 84%. Mais malgré tout, voilà, il y a une petite opposition, 22% environ contre le mariage encore aujourd'hui, et 26% contre l'adoption.
Puisqu'on parle d'accès à la parentalité, alors pour les couples d'hommes, ça reste interdit, puisque pour un couple d'hommes, il faut passer par une GPA, une gestation pour autrui. Et on voit aujourd'hui que les couples homosexuels espagnols ont recours à la GPA à l'étranger, en Ukraine notamment. Et d'ailleurs, récemment, le gouvernement espagnol a durci les conditions de reconnaissance de la nationalité des enfants nés de GPA à l'étranger. Et pourtant, c'est aussi un gouvernement socialiste, gouvernement actuel, qui, disons, complique un peu cette situation-là. Quel est l'état du débat sur cette question de la GPA en Espagne?
Alors, pour la GPA, effectivement, c'est une situation un petit peu particulière aujourd'hui en Espagne, puisqu'elle n'est pas tout à fait illégale. C'est plutôt une situation allégale, je dirais. au sens où les enfants qui sont nés par GPA à l'étranger sont reconnus en Espagne et donc doivent être inscrits à l'état civil. Hein, aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe, hein, puisque ces enfants nés sous GPA, ils sont présents depuis des années. Et donc quand même, voilà, hein, les autorités espagnoles reconnaissent, hein, puisqu'il y a eu tout un tas de recours de nombreux avocats auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et du coup, voilà, hein, normalement, ils sont reconnus. Simplement, vous citez le cas de l'Ukraine. Le problème de l'Ukraine, c'est qu'ils ne reconnaissent pas la GPA pour les couples de même sexe. Donc voilà, c'est pourquoi les couples de même sexe tournent plutôt vers le Canada, les États-Unis. Mais là, effectivement, c'est extrêmement cher. Donc c'est limité pour les couples très, très aisés.
Alors, toujours sur cette question de la GPA, un parti parmi la classe politique espagnole, le parti Ciudadanos, s'est dit favorable à la GPA. Est-ce que c'est un thème qui est un thème important dans cette campagne, hein? Je rappelle qu'on est à quelques jours des élections législatives anticipées en Espagne.
Effectivement, c'est très étonnant. Un parti de droite aimerait légaliser la GPA, donc c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est le seul parti aujourd'hui qui voudrait légaliser la GPA, puisque le PS et Podemos, hein, se sont plutôt prononcés contre, mais au moins, bien que ce soit un parti, un Ciudadanos, qui soit quand même très très conservateur, avec des idées quand même assez rétrogrades sur beaucoup de sujets sociétaux, disons, ce qui est quand même important, il me semble, c'est qu'il pose la question de façon pragmatique, c'est-à-dire que il n'y a pas une moralisation où il ne traite pas cette question de façon morale, mais plutôt de dire, voilà, ces enfants, ils sont là, il faut légiférer. Donc ça me semble important, en tout cas, de ce point de vue-là.
Un mot sur votre thèse, Geoffroy Huard, vous êtes historien, je rappelle, vous avez travaillé sur la répression des homosexuels pendant la période franquiste, notamment en Catalogne. Comment s'est exercée concrètement cette répression d'État envers les homosexuels?
Alors, cette répression, déjà, bon, il y avait deux lois principales, hein, c'était... Tout d'abord, une loi en 1954 sur les vagabonds, hein, comme on les appelait alors. Et puis, il y a eu une deuxième loi en 1970 qui s'appelle la loi de dangerosité et réhabilitation sociale. Et c'était deux lois qui, dans les faits, condamnaient tous les homosexuels. Mais en réalité, dans la pratique, c'était un petit peu différent, puisque au-delà de, évidemment, la répression policière, les descentes de police dans les bars, cabarets, etc., si vous voulez, c'est que c'était plutôt une répression qui ciblait principalement les gays, les transsexuels, ou en tout cas les invertis, comme on les appelait à l'époque, les invertis, les travestis des classes populaires, hein, donc des quartiers vraiment très populaires de Barcelone en particulier, mais également de Madrid. Hein. C'est-à-dire que dans les faits, tous les homosexuels n'étaient pas condamnés, bien que la loi affirme que c'était le cas.
Est-ce qu'on y a encore des impacts aujourd'hui de cette époque? La période franquiste s'est terminée en 1975. C'est vrai que c'est une histoire qui est encore récente. Il y a encore des personnes vivantes, hein, aujourd'hui qui ont connu cette répression à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des demandes de réparation. Que demandent ces personnes concrètement?
Alors oui, c'est vrai, en fait, puisque tout ce débat s'inscrit dans un débat un petit peu plus large. C'est ce qu'on appelle en Espagne la récupération de la mémoire historique, c'est-à-dire la mémoire des victimes de la guerre civile et de la dictature. Et parmi ces victimes, il y a évidemment les personnes qui ont été réprimées en raison de leur orientation sexuelle. Donc c'est le cas des gays, lesbiennes et transsexuels. Et aujourd'hui, effectivement, hein, beaucoup d'associations demandent réparation. Donc il y a déjà eu une réparation partielle grâce à la loi de 2007, qui s'appelait d'ailleurs « Loi de mémoire historique ». Donc cette réparation, c'était bien sûr une réparation symbolique, mais également une réparation économique. Mais aujourd'hui, celle-ci est jugée quand même, ou en tout cas considérée assez insuffisante, et donc les associations demandent une réparation économique bien plus importante. Alors après, la difficulté, si vous voulez, c'est que c'est très difficile de retrouver ces gens-là, hein, puisque beaucoup sont morts en raison de l'épidémie de sida dans les années 80. Et puis, voilà, c'est très difficile pour ces personnes-là d'avoir accès à ces aides. Hein. Il faut faire la demande, c'est beaucoup de démarches administratives. Mais en tout cas, c'est en ce sens aujourd'hui que travaillent certaines associations pour pouvoir demander réparation, une réparation complète, bien que ce soit 40 ans après la dictature.
Je reviens au temps présent, Geoffroy Huard. En 2017, une campagne avait été lancée à travers le pays par une association appelée Astéoïr, je crois qu'on dit « Fais-toi entendre ». C'était un bus qui a parcouru le pays et on pouvait lire ce message sur le bus. « Si tu es né homme, tu es homme. Si tu es une femme, tu continueras de l'être ». Qu'est-ce que cette campagne dit de la persistance d'une homophobie, mais aussi d'une transphobie en Espagne ?
Voilà, c'est ça. Alors en fait, oui, Astéoïr, c'est en fait une organisation d'extrême droite, hein, enfin de droite radicale et de catholiques traditionnalistes. Donc c'est des bus, effectivement, qui ont parcouru les rues de Madrid avec des messages transphobes. Et d'ailleurs, ces messages, enfin, en tout cas ce bus, a été arrêté par la mairie de Madrid, hein, pour ne pas diffuser ces messages. Ils ont été condamnés. Et par exemple, le parti Podemos, pour répondre, si vous voulez, à cette transphobie qui est quand même très très importante, et l'homophobie importante également en Espagne, ont utilisé les armes de l'ennemi, si je puis dire, et eux aussi ont sorti un bus dans les rues de Madrid, et sur ce bus, ce n'était pas un message écrit, mais c'était en fait les visages des hommes politiques de la droite qui étaient corrompus et condamnés pour corruption, pour justement essayer de décrédibiliser un petit peu le message de ces gens-là.
Merci beaucoup Geoffroy Huard, je rappelle, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Cergy-Pontoise. Alors eh bien que ce soit sur les droits des femmes ou des personnes LGBT, il y a un acteur hein, qui a souvent eu son mot à dire sur ces sujets, c'est l'Église catholique bien sûr, et pour en parler nous a rejoint tout de suite par téléphone Julia Martinez Ariño, sociologue, chercheuse à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Et c'est vrai qu'on a facilement l'image d'une Espagne très catholique où l'Église aurait une influence particulièrement forte sur la politique et la société, mais à y regarder de plus près, la pratique du catholicisme, tout comme son influence, serait plutôt en perte de vitesse. C'est en tout cas ce que montrent plusieurs études. Est-ce que c'est également ce que vous avez pu constater ?
Si on regarde les dernières données du Centre de recherche sociologique, qui est une institution autonome mais du ministère de la Présidence, on voit effectivement qu'il y a un changement dans les données d'affiliation à la foi catholique. On voit que en 2001, 82% de la population se disent catholiques et en 2019, c'est juste 67%. Alors, on voit effectivement qu'il y a une baisse de l'identification avec le catholicisme et ça, on le voit aussi dans les données d'autres pratiques qui pourraient être influencées par l'Église catholique, comme par exemple les mariages religieux, la naissance d'enfants dans le mariage ou en dehors du mariage. On voit effectivement qu'il y a un changement très fort là-bas.
Comment est-ce qu'on explique cette baisse spectaculaire, Julia Martinez Ariño, donc non seulement de la pratique catholique, mais aussi, comme vous l'avez dit, de l'identification des Espagnols à une identité catholique ?
Alors, on pourrait dire que l'Espagne était un pays qui allait un peu en retard dans le processus de sécularisation, si on le compare avec d'autres pays européens. Et on a bien sûr l'influence de la dictature qui a mis un peu le processus de sécularisation en pause. Et après la transition démocratique, on voit qu'il y a un changement culturel et politique, bien sûr, très fort, qui a fait que les données ont changé si rapidement. On voit effectivement que les jeunes ne s'identifient très fortement pas avec l'Église catholique. C'est dans les populations les plus jeunes où on voit ce détachement de l'identification catholique. Mais je dirais surtout que c'est le processus de démocratisation du pays qui a porté à cet changement si rapide.
Est-ce que les scandales de pédophilie dans l'Église ne peuvent pas être aussi un facteur explicatif de la désaffection des Espagnols pour la religion ? Récemment, dans la presse espagnole, la presse espagnole a accusé assez fortement l'Église de faire un déni sur cette question des abus sexuels sur mineurs par des prêtres.
Oui, effectivement, le scandale d'abus sexuels, il y en a eu d'autres, par exemple, des cours pour soigner les homosexuels ont une influence sur la perception de la population de l'Église catholique. Et le centre Pew Research Center, qui est un institut de recherche aux États-Unis, a fait une enquête en mai 2018 où ils ont étudié la relation avec les églises chrétiennes partout en Europe. Et on voit qu'en fait, les personnes qui ne font plus partie de l'église catholique, une des raisons qu'ils disent pour avoir quitté l'église, c'est effectivement les scandales d'abus sexuels. Alors, je crois qu'effectivement, pas seulement les scandales, mais la manière dont l'église a géré cette situation ont un impact important sur l'attachement au détachement de la population de l'institution catholique.
Et du coup, conséquence, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'église catholique a moins d'influence sur les questions de société, notamment sur les questions d'avortement, par exemple, de légalisation du mariage pour tous, sur les questions d'euthanasie, etc. Est-ce qu'on peut dire que donc la désaffection des Espagnols pour la religion s'est accompagnée d'une perte d'influence de l'Église catholique sur tous ces sujets sociétaux?
Oui, on pourrait dire que au moment où il y a eu des réformes législatives concernant, par exemple, le mariage entre personnes du même sexe, il y a eu une contestation d'une partie importante de la population catholique et même de la hiérarchie catholique. Mais dans les dernières années, on voit que l'Église ne prend pas une position si forte. Peut-être effectivement parce qu'ils n'ont pas de légitimité, leur légitimité est moins importante maintenant. Et on le voit dans les questions d'euthanasie, avortement, mariage homosexuel, il n'y a pas maintenant une présence très forte de l'Église catholique dans ces débats publics.
Et puis il y a eu un tournant en 2014, le départ du cardinal Rouco qui était à la tête du diocèse de Madrid. Il était souvent présenté comme le grand défenseur de la tradition catholique. Il appelait aussi régulièrement à la résistance hein, face aux réformes menées notamment par le gouvernement de Zapatero. Est-ce que son départ a signé la fin d'une ère d'une certaine manière, la fin d'une mobilisation farouche de l'Église sur les sujets de société ?
Je ne suis pas sûre. En fait, je crois que l'une des raisons pour laquelle on ne voit pas une église si combattante, c'est qu'on a eu un gouvernement conservateur jusqu'à l'année dernière. Et alors, on n'a pas eu de mesures politiques ou législatives qui vont à l'encontre de la morale ou des normes de l'église catholique. Les dernières années, les derniers 10 mois, on a eu un gouvernement du Parti socialiste, mais ils n'ont pas eu le temps de mettre en œuvre de nouvelles politiques qui pourraient appeler à l'Église catholique. Alors, peut-être, oui, le changement dans la tête de la hiérarchie, mais aussi le fait qu'il n'y a pas eu de grands débats politiques sur des questions de morale, de vie familiale, etc.
Alors, l'Église est moins combative, vous l'avez dit, mais pour autant, les discours conservateurs sont encore présents dans le débat politique. Ça veut dire qu'ils ont été relayés par d'autres. On les a entendus notamment du côté des partis Vox, mais aussi du Partido Popular, le parti conservateur de droite.
Oui, je crois que effectivement, l'Église reste une institution qui est importante et qui pourrait, dans un moment, dans le futur, retourner vers la sphère publique au nouveau, et s'il y a des débats, par exemple, autour de l'euthanasie, la régulation de l'euthanasie, je ne suis pas sûre qu'ils ne seront pas là. Je crois qu'ils ne sont pas complètement disparus, mais effectivement, les derniers cas d'abus sexuels, je crois en particulier, ont mis la légitimité de cette institution en question. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils essayent d'avoir un profil plus bas, rester un peu à côté de débat public. Mais comme je le disais, on ne sait pas, peut-être dans le futur, on pourrait voir une église qui devient au nouveau plus combattante.
En juin 2018, quand Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, a pris ses fonctions, il a symboliquement fait le choix de n'arborer ni Bible ni crucifix lors de sa prise de fonction, et ça avait été souligné par la presse comme une première. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le statut officiel de la religion catholique par rapport à l'État espagnol? Est-ce que l'État espagnol reconnaît d'une certaine manière la place de la religion catholique ou pas du tout?
Oui, la Constitution de 1978 reconnaît un statut particulier à l'Église catholique. L'État espagnol est un État non confessionnel. mais il y a une reconnaissance de l'histoire de l'Église catholique qui est la seule institution religieuse qui est nommée spécifiquement dans la Constitution. Après, il y a d'autres organisations religieuses. Après, il y a un accord concordateur avec le Vatican et ça a effectivement une influence dans les relations entre l'État espagnol et l'Église. Mais en tant qu'État, c'est un État qui est aconfessionnel.
Ce n'est pas un État laïque, c'est un État aconfessionnel.
Aconfessionnel.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des forces politiques aujourd'hui qui pourraient pousser vers une laïcisation vraiment des institutions espagnoles ou bien est-ce que ce soit dans la culture ou dans l'opinion publique, l'Espagne n'est ni prête, n'a ni envie d'aller dans cette direction ?
Il y a eu des efforts pour changer un peu cette situation. Les gouvernements de parti socialiste avec Zapatero ont essayé d'approuver une nouvelle loi de la liberté religieuse, liberté de conscience. Ça n'a pas réussi. Maintenant, si on regarde les programmes électoraux de différents partis politiques, on voit que dans le cas de PSOE, les partis socialistes et Podemos, il y a des mesures pour réduire la présence de l'Église catholique dans les institutions publiques, pour réduire quelques de ses privilèges par rapport, par exemple, aux impôts du patrimoine du bâtiment. On pourrait trouver là des mesures pour changer un peu et réduire l'influence de l'Église catholique et de trouver une situation de un peu plus d'égalité avec les autres confessions qui sont présentes dans les pays.
Merci beaucoup, Julia Martinez Arrigno. Retour en plateau avec vous, Karine Bergès. Une réaction à tout ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, alors il y a beaucoup de réactions. Je vais
synthétiser. On a une petite minute. sur l'Église catholique, peut-être.
Oui, alors l'Église catholique, mais j'aurais aimé aussi parler de la GPA et de Ciudadanos, si je peux juste dire un mot là-dessus.
Oui.
Juste dire que Ciudadanos est le seul parti qui se présente, enfin qui défend hein, la GPA. Et qu'il y a, on va le dire, donc Geoffrey Huard parlait d'une non-moralisation hein, par le parti Ciudadanos de ces questions, effectivement. Mais je crois qu'aussi, il faut prendre en compte une stratégie politique qui est très, très claire. Aujourd'hui, on a trois droites en Espagne et Ciudadanos entend se démarquer à la fois de la droite du PP sur les questions de la famille et évidemment de l'extrême droite de Vox qui, lui, par exemple, demande la fondation d'un ministère de la famille. Donc c'est aussi une récupération politique sur ces questions LGBTI et de stratégie électorale.
Stratégie électorale. Un tout petit mot sur l'Église ?
Alors sur l'Église, oui, bon, je pense que c'est important de dire que effectivement il y a moins de présence de l'Église au sens où on l'entend dans l'espace public, mais que les partis politiques, notamment le Parti populaire et Vox en l'occurrence, sont pour cette campagne électorale de véritables relais des valeurs catholiques et conservatrice. Je ne prends qu'un exemple. Toute la thématique autour de la famille, le PP se présente et dit dans son programme électoral que la famille est la colonne vertébrale de toutes ses politiques. Et quand il entend la famille, c'est évidemment la famille traditionnelle avec un papa et une maman. À l'inverse de Ciudadanos, qui lui se présente comme le président des familles, famille au sens large avec la diversité effectivement des familles aujourd'hui. Et évidemment, Vox, on en a parlé, on peut le mettre en lien avec l'association dont vous parliez dans le reportage tout à l'heure, Asteoir, qui est une association d'extrême droite fondée par Ignacio Arzuaga en 2001 et qui est un lobby fondamentaliste religieux pour faire évidemment des campagnes extrêmement violentes anti-avortement, transphobes également, on l'a vu, et qui est un relais des valeurs les plus conservatrices et des valeurs catholiques. Donc je crois qu'effectivement, il est important de voir que ces partis aujourd'hui, le PP, Vox, ont intégré toute une rhétorique autour des valeurs humanistes, chrétiennes, pour condamner finalement ces questions, ou ces lois du moins, qui vont vers une meilleure égalité des droits des minorités sexuelles et des femmes.
Et puis n'oublions pas, Karine Bergès, qu'on était dans la Semaine Sainte, hein, il y a peu en Espagne, avec la participation de plusieurs responsables responsables politiques, donc plutôt à droite effectivement, dans les processions de la Semaine Sainte. On est arrivé au bout. Merci beaucoup Karine Bergès. Je rappellerai surtout votre ouvrage, l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Féminisme du 21e siècle, une troisième vague, point d'interrogation. C'était aux Presses universitaires de Rennes en 2017. Merci beaucoup au studio de France Bleu Occitanie à Toulouse de vous avoir accueilli pour le duplex.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Alors, penser l'Europe, un vaste projet sans cesse remis sur le métier.
Et comme vous le dites Mélanie, et Philosophy Magazine du mois de mai qui vient de paraître, renouvelle l'exercice de manière intéressante en présentant un dossier intitulé « L'esprit européen ». Élection au Parlement européen oblige pour ce magazine qui vise à nous aider à comprendre l'actualité en l'éclairant. Alors le dossier nous propose un mélange bien dosé de réflexions et d'anecdotes, de culture et de politique, quelques grands penseurs d'hier et puis des réflexions de contemporains. On sera sensible à l'idée émise par Heinz Wissmann, selon laquelle l'esprit de l'Europe s'est forgé dans une série d'arrachements, à commencer par le mythe de l'enlèvement de la princesse phénicienne Europe par le dieu Zeus. Mais la philosophie elle-même, telle que l'ont inventée les Grecs, consiste aussi en une rupture avec les lieux communs admis, revêtus de l'autorité des ancêtres. On sera également sensible à la méfiance manifestée par Felwine Sarr face aux prétentions universalistes et rationalistes de l'esprit européen. Derrière les premières, il distingue les vieilles ambitions coloniales, et derrière les secondes, la raison instrumentale, l'appétit de domination sur le monde vivant. De l'article de Michel Elchaninov, on retiendra en particulier l'idée que l'Europe est en panne d'un grand récit qui donnerait un horizon de sens à l'aventure politique brinque-ballante de l'intégration. L'Europe a tellement peur de son ombre qu'elle peine à s'incarner, à assumer une histoire, une culture, une géographie précise. Et elle ne saurait non plus se définir que de manière purement négative, comme le faisait Ulrich Beck, en se présentant comme vacuité substantielle, pur espace d'accueil, tolérance radicale. Pour convaincre ces peuples de sacrifier une partie de leur souveraineté nationale, il faut qu'elle accepte de s'incarner dans des mythes et des lieux qui prennent un sens partagé. D'où l'intérêt de l'exercice proposé par Philosophy Magazine à six penseurs. Quelles sont les habitudes partagées par tous les Européens et dans quel lieu de sociabilité typique de notre culture s'inscrivent-elles, pardon. Quels sont les lieux communs européens? Robert Pfaller a choisi les terrasses de café, Barbara Cassin, la pluralité des langues, Jacques Dariula, la cathédrale, cet homme-là doit posséder un don prophétique, Constantin Sigoff, l'université, Carole Beffa, la musique écrite, et Claude Habib, la séduction. Partir des lieux communs est l'une des meilleures manières de définir l'esprit de l'Europe, mais on remarquera que leur définition varie au fil du temps.
Et est-ce qu'on a des exemples, Brice, des changements produits par le passage du temps?
Bah oui, je me rapprocherai d'un colloque consacré il y a 30 ans à l'identité culturelle européenne, au cours duquel Pierre Nora, sollicité pour une extension à l'Europe de l'entreprise qu'il avait dirigée avec les lieux de mémoire, suggérait donc en historien un vaste panorama des lieux cruciaux, ceux où s'est joué à un moment donné le destin global de l'Europe. Il y aurait nécessairement, disait-il, les grandes batailles, les Pentes, Austerlitz, Berlin, les grandes conférences internationales, le partage de l'Empire carolingien à Verdun en 843, les traités de Westphalie de 1648 qui posèrent le principe de la souveraineté des États, le congrès de Vienne 1814-1815 qui solda l'addition des guerres napoléoniennes et réinstalla les rois sur leur trône vacillant, le traité de Versailles de 1919 imposé à l'Allemagne vaincue et qui sera instrumentalisé par Hitler. Mais Nora suggérait aussi d'explorer le réseau des grandes universités européennes de Salamanque à Vilna en passant par Göttingen et Bologne, comme les réseaux commerciaux reliant entre elles des villes portuaires telles que la Hanse, et puis bien sûr les grandes routes de pèlerinage comme Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais il s'agissait de lieux de mémoire, du genre de ceux qu'Antoine Compagnon et Jacques Sébachère avaient confiés à des historiens dans le premier volume de la série de la passionnante entreprise qu'ils avaient faite, L'Esprit de l'Europe, qui a été publié en 1993. Plus récemment, en 2004, Brigitte Krulik a dirigé pour les éditions Autrement un recensement des lieux communs d'Europe passionnant. On y trouvait également le café, mais aussi les parcs et jardins publics, la Grand Place, la forêt, le château, le presbytère, les rives, rivages et villégiatures, toute une vitrine identitaire où s'incarne une culture et une mémoire commune aux Européens. Plus systématique et didactique, il y a eu l'album superbement illustré « Le lieu de mémoire européen » dirigé par Étienne François et Thomas Serrier. On y proposait non seulement un miroir des valeurs européennes, mais des structures au sens où peuvent s'inscrire des décantations mémorielles. Le grand reproche adressé ces temps-ci à la machinerie politique et administrative européenne, ce que ses adversaires appellent Bruxelles, c'est son abstraction, son manque d'incarnation, son oubli des réalités de l'histoire et de la géographie. Eh bien, la meilleure réponse à leur donner, c'est ce genre d'inventaire culturel topographique. L'histoire s'y marie en effet à la géographie.
Et merci beaucoup Brice Couturier, on vous retrouve demain. En attendant, votre chronique à retrouver et réécouter sur franceculture.fr.